Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide avec vous dans Le Monde Aujourd'hui, en ce jeudi 9 décembre 2021, une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. Incertitude au Burkina Faso après la démission du gouvernement, emporté par le mécontentement face aux violences djihadistes. Réaction dans la partie magazine. Trois employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés blessés dans une attaque en RD Congo. La Tanzanie fête son indépendance sur fond de crainte pour la liberté d'expression. La démocratie a grand besoin de champions, déclare le président américain Joe Biden à l'ouverture aujourd'hui d'un sommet virtuel sur la démocratie. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. Les Burkinabés s'interrogent sur l'avenir politique du pays au lendemain du limogeage du gouvernement, emporté par le mécontentement croissant de la population face aux attaques djihadistes. En poste depuis près de 3 ans, le Premier ministre Christophe Dabiré a remis sa démission hier soir au président Roch Marc Christian Kabore, qui l'a accepté. Le point avec Abdourahman Dia.
La situation sécuritaire qui se dégrade a eu raison de Christophe Joseph Dabiré. Il a remis hier soir une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kabore, qui l'a accepté. Il n'a pas résisté à la poussée de colère qui monte depuis plusieurs semaines pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste. En attendant la nomination de la nouvelle équipe attendue dans les prochains jours, les anciens ministres continuent d'expédier les affaires courantes. Mais ce jeudi, la société civile qui réclamait un tel changement demande au président Kabore de nommer rapidement un nouveau gouvernement. Le pays n'a pas besoin d'un temps de flottement et de naviguer avec des ministres devenus intérimaires et qui expédient des affaires courantes, a déclaré Youssouf Savadogo, membre du cadre de concertation des organisations de la société civile. Nous sommes en guerre et il faut un gouvernement de combat pour reprendre la situation en main, a-t-il ajouté, espérant connaître le nom du futur Premier ministre sous 24 heures. Le mois dernier, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour réclamer le départ de l'exécutif.
En République démocratique du Congo, 3 employés du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont été blessés dans l'attaque hier de leur convoi par des hommes armés. Les détails avec Rosine Moulet-Zéro.
Des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur un convoi de l'ONU qui circulait à l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué le HCR. Un véhicule a été touché par des tirs et 3 membres de son personnel ont été blessés. L'attaque a eu lieu dans la localité de Mombasa, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Le HCR s'est dit choqué et indigné par cette attaque et a appelé à la protection des civils et des travailleurs humanitaires contre les violences. Médecins sans frontières, qui a déjà subi une pareille attaque, avait même suspendu ses opérations. Pourtant, les FARDC et la MONUSCO viennent de conclure un accord pour des opérations conjointes contre les multiples groupes armés qui sévissent dans le pays. Aussi, les forces ougandaises en accord avec Kinshasa sont à pied d'œuvre sur le terrain pour combattre les rebelles ADF. Depuis le mois de mai, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous état de siège. Mais depuis, plus d'un millier de civils ont été tués.
En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a salué les progrès réalisés par son pays à l'occasion des 60 ans de son indépendance aujourd'hui, sur fond de craintes grandissantes concernant les droits civiques. Davantage avec Mohamedou Moufa.
À la veille de l'anniversaire de cette indépendance, la présidente Samia Suluhu Hassan a prononcé un discours à la nation. La réussite que nous avons connue au cours des 60 dernières années a été permise par une administration démocratique et un état de droit, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que le nombre d'organes de presse est passé de 1 en 1961 à des centaines aujourd'hui. Devenue en mars la première femme à diriger la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a donné des signes de rupture avec son prédécesseur, John Magufuli, connu pour son style autoritaire. Elle a rouvert certains médias, intégré au gouvernement un critique de son prédécesseur ou encore annulé l'interdiction aux filles enceintes et aux mères adolescentes d'aller à l'école. Elle a également lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19, alors que Magufuli n'avait cessé de minimiser l'impact du coronavirus. Mais l'arrestation fin juillet du leader du principal parti de l'opposition, Freeman Mbowe, accusé de terrorisme, a jeté le doute sur ses intentions. En août, le gouvernement a suspendu un journal appartenant au parti au pouvoir pour avoir publié un article affirmant que Hassan ne se présenterait pas aux élections en 2025.
Au Nigeria, le gouverneur de l'État du Borno a interdit les distributions de nourriture à des dizaines de milliers de personnes dans le besoin, en dépit des inquiétudes des organisations humanitaires. Dans cette région, ravagée par un conflit depuis 12 ans, 2,4 millions de personnes sont menacées par la faim, d'après l'ONU. Le variant Omicron touche davantage de pays en Afrique et le nombre de cas de Covid-19 a bondi de 93% sur le continent en une semaine. Mais signe d'espoir, les hospitalisations demeurent peu nombreuses en Afrique du Sud, où il a été détecté en premier. C'est ce qu'indique l'OMS Afrique, qui demande d'améliorer la couverture vaccinale sur le continent, qui est toujours très faible. Le chef de la diplomatie israélienne en Égypte aujourd'hui, Yair Lapid, a eu des entretiens au Caire où il a évoqué la bande de Gaza sous blocus et l'Iran, le grand ennemi de son pays. Yair Lapid ajoute avoir discuté avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi des tentatives de l'Iran de devenir un pays ayant un pouvoir nucléaire militaire, alors que les pourparlers sur le nucléaire iranien reprennent à Vienne aujourd'hui.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est d'avis que la démocratie a besoin de champions, y compris aux États-Unis. Joe Biden a ouvert ce matin un sommet virtuel de 2 jours rassemblant une centaine de pays dont le choix a provoqué bien des débats. Les précisions avec John Linden.
La démocratie dans le monde est confrontée à des défis importants et inquiétants, a dit Joe Biden à l'ouverture du sommet virtuel de 2 jours consacré à la démocratie. Le forum, organisé virtuellement par Washington pour cause de pandémie de COVID-19, se veut, selon la Maison-Blanche, révélateur du combat entre les démocraties et les dictatures et régimes autocratiques au cœur de la politique étrangère de Biden. N'en doutez pas, nous sommes à l'heure de vérité pour la démocratie, a affirmé Usra Zeya, sous-secrétaire d'État américaine pour la sécurité, la démocratie et les droits humains. Selon elle, les démocraties du monde affrontent des défis croissants venant de nouvelles menaces. La rencontre virtuelle rassemble les représentants d'une centaine de gouvernements, d'entreprises et d'organisations de la société civile. La Chine et la Russie, considérées comme les champions du camp des autocrates, ont fustigé leur exclusion.
Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est également adressé ce matin aux participants à ce sommet virtuel, extrait de son discours où il revient sur ses priorités en matière de lutte contre la corruption dans son pays.
Je m'engage à poursuivre cette lutte contre la corruption sous toutes ses formes, en adoptant notamment les mesures suivantes. Le renforcement de l'autonomisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'APLC en sigle, le renforcement de la Cour des comptes et des cours et tribunaux, la réforme des lois anticorruption et l'orthodoxie dans la gestion transparente des ressources publiques et de l'exécution du budget de l'État. Je souhaite plein succès à ce sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains. Je vous remercie.
Félix Tshisekedi, président de la RDC, et tout à l'heure, nous reviendrons sur ce sommet sur la démocratie dans notre partie magazine. L'Irak annonce la fin de la mission de combat sur son territoire de la coalition internationale anti-djihadiste emmenée par Washington, qui conserve ses effectifs dans le pays pour un rôle de formation et de conseil. Si elle ne change rien sur le terrain, l'annonce de ce jeudi est cruciale pour l'exécutif irakien face aux menaces virulentes des factions pro-Iran qui réclament le départ pur et simple de toutes les forces américaines en Irak. Ce changement de mission de la coalition internationale a été évoquée pour la première fois en juillet dernier par le président Joe Biden. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco. Nous retrouvons Rosine Mounézéro.
La lutte contre la corruption a figuré mercredi au menu de discussion entre le président de RDC, Félix Tshisekedi, et la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, venue à Kinshasa pour sa première visite en Afrique depuis le début de la pandémie de Covid-19. J'ai pu saluer l'engagement réitéré du président à promouvoir une meilleure gouvernance et la transparence dans le secteur minier et la gestion des finances publiques comme des éléments importants pour une croissance forte et durable tirée par le secteur privé, a déclaré la directrice générale du FMI qui se rend au Sénégal. Le Cameroun interdit l'exportation des céréales, riz, maïs, mil, sorgho vers les pays frontaliers. Cette mesure vise à garantir l'approvisionnement des populations, rapporte l'agence Ecofin. Dans la région septentrionale du Cameroun, les céréales font partie des habitudes alimentaires. Mais depuis quelques années, le rythme de consommation des céréales dans cette région est fortement perturbé par les exportations en direction des pays voisins, tels que le Nigeria et le Tchad. La ministre française de la mer, Annick Girardin, a prévenu jeudi que si toutes les licences de pêche post-Brexit encore réclamées au Royaume-Uni n'étaient pas accordées d'ici vendredi soir, la France demanderait une réunion au niveau européen et irait au contentieux lors d'une audition au Sénat.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est avec Bagasikoura. Bonsoir.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Des nouvelles de Victor Osimhen, victime d'un choc violent au visage et récemment opéré. Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, dit garder espoir, un petit espoir de le voir participer à la Coupe d'Afrique des Nations en début 2022. Son club de Naples a annoncé le 23 novembre une indisponibilité de 3 mois. Le Super Eagles, blessé 2 jours plus tôt au niveau de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche dans un choc aérien durant un match contre l'Inter Milan, l'attaquant de bientôt 23 ans a repris hier la course à l'entraînement un peu plus de 2 semaines après avoir été opéré de multiples fractures au visage selon le Napoli. Quelques programmes du week-end de foot européen. D'abord, des nouvelles de la Premier League. L'ancien milieu de Liverpool, Steven Gerrard, désormais entraîneur d'Aston Villa, va retrouver le stade d'Anfield samedi. L'ancien milieu de terrain des Reds avait assuré n'avoir aucune, absolument aucune nostalgie à l'idée de retourner dans un stade qu'il a fréquenté pendant 17 saisons après la victoire contre Leicester, 2-1 le week-end dernier. Mais le stade lui réservera sans doute un accueil de héros. Avant cela, le nouveau leader Manchester City aura accueilli Wolverhampton en milieu de journée avant que Chelsea ne reçoive Leeds, dont Thomas Tuchel a dit redouter l'intensité après le périple frustrant en Russie en Ligue des Champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg avec ce match nul 3-0. En Espagne, l'Atlético et le Real Madrid s'affrontent dimanche soir à 21h au stade Santiago Bernabéu dans le cadre de la 17e journée de la Liga pour décider qui sera le roi de la capitale. En cas de victoire, le Real Madrid pourrait prendre 13 points d'avance sur les Colchoneros et porter un coup de massue au classement avant la trêve de Noël. Le Real devra toutefois se méfier de l'affiche qui aura lieu juste avant. Betis Séville, 3e, à 9 points des Merengues, reçoit dimanche à 18h30 le Real Sociedad, 5e, après sa défaite 2-0 à domicile contre les hommes de Carlo Ancelotti samedi dernier. Des nouvelles de la santé du roi Pelé, l'ancienne star brésilienne pourra rentrer chez lui dans 2 ou 3 jours après un nouveau passage à l'hôpital où il poursuit un traitement contre une tumeur du côlon détectée en septembre, a indiqué sa fille. Et pour terminer en basketball, les Houston Rockets ont remporté hier soir leur 7e victoire d'affilée en NBA en dominant les Brooklyn Nets 114-104, tandis que le champion en titre Milwaukee a été défait par Miami et que les Wizards de Washington l'ont emporté de justesse à Détroit.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Au Burkina Faso, poussé vers la sortie par le chef de l'État, Rochmar Christian Kabore, le Premier ministre Christophe Davire a démissionné hier soir, entraînant automatiquement le départ de l'ensemble du gouvernement alors que le pays traverse une crise sécuritaire difficile. Un nouveau cabinet est attendu dans les jours à venir. Les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou au journal de 20h de la télévision nationale ce mercredi soir annonce que le président du Faso par décret et suite à la démission du premier ministre a mis fin aux fonctions de ce dernier et des membres de son gouvernement. À Ouagadougou, c'est sans surprise quand on sait que Roch Kabore avait dans une adresse au Burkinabé annoncé un gouvernement resserré. Les populations attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement qui sera formé.
Ce qui pourrait plus rassurer les Burkinabés à mon sens, c'est qu'il y ait plus de communication avec la population. Voilà, parfois quand il n'y a pas de communication, on voit que chacun prend des décisions. Voilà, s'il n'y a plus de communication, ça va vraiment aider le Burkina. Et surtout, le gouvernement qui va venir en place, mes attentes, c'est plus des objectifs à court terme. Voilà, qu'ils puissent regarder certaines personnes, qu'ils vont mettre à certains postes, qu'ils puissent nous dire quelle est l'évolution de ce qu'ils font.
Le nouveau gouvernement est resserré. C'est pas forcément ça qui est important pour les Burkinabés. C'est de communiquer davantage sur le terrain ce qui se passe. Moi aujourd'hui, je veux savoir de l'est au nord, les positions de l'armée, c'est comment? Est-ce que l'armée est par exemple à Nassungu, à Koutoukou?
La société civile estime qu'il faut aller vite, car l'heure est grave.
L'heure est grave. Les choses urgent ici au Burkina Faso.
Abraham Badolo est le président de l'ADP, l'Alliance pour la Défense de la Patrie, une organisation de la société civile.
Nous espérons maintenant que le président du Faso va aller très vite en nommant un premier ministre qui va former rapidement un gouvernement pour que nous puissions vraiment aller très vite. Vous avez vu que les terroristes continuent de prendre du terrain. Le peuple n'a plus la patience, cette patience vraiment d'attendre assez longtemps.
Les analystes et autres observateurs pensent que le président a une lourde tâche dans la formation de ce nouveau gouvernement dit resserré. Pazien est analyste politique.
Il a annoncé un gouvernement resserré. On peut s'attendre à ce que le nombre diminue, à ce que les portefeuilles puissent diminuer également. Maintenant, est-ce que le président du Faso aura la latitude de faire comme il entend, comme il veut, quand on sait que même dans son propre temps, il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux politiques au niveau national avec l'opposition qui conteste beaucoup. Donc, on attend de voir ce que cela peut donner. Mais nous voulons dire que c'est une manière pour le chef de l'État de dire à la population s'il est engagé à faire des réformes pour qu'on puisse venir à bout d'angle d'insécurité qui est grandissante, qui est grandissante et vraiment qui ne permet plus de dormir au Burkina Faso.
Depuis l'attaque d'Inata qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils le dimanche 14 novembre, le président Kabore, face à la pression populaire, a opéré de nombreux changements au sein du commandement de l'armée. Il a demandé un rapport à l'armée pour situer les responsabilités. Le rapport produit a été rejeté par le président, selon le quotidien national. Un autre rapport est attendu le 13 décembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, c'est en présence de plusieurs ministres du gouvernement, d'ambassadeurs et de personnalités de la culture que l'ambassadeur des États-Unis à Bamako a procédé à la remise aux autorités de la transition d'objets archéologiques issus de pillages. Un acte qui traduit l'excellence des rapports entre les deux pays, comme nous le rapporte Mohamed Danioko de la capitale malienne.
L'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Hankins, a procédé à la remise de plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques au premier ministre de la transition malienne, Chogalko Kalamaïga. Ces objets, issus du pillage et du trafic illicite, ont été saisis par les services des douanes américaines. La plupart de ces objets avaient été pillés entre 2008 et 2011. Denis Hankins.
Ces objets sont les produits De plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans, c'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages ici et d'exportation illicite des produits. Dans certains cas, il y avait des informations données par le gouvernement malien, même par le musée national, qui ont vu les objets maliens dans le marché américain. Il y avait une investigation. Dans d'autres cas, c'était sûrement un container qu'ils ont vu avec les dits produits artisanaux qui étaient vraiment historiques. Alors c'est notre service de douane qui a saisi pendant les derniers 10 ans.
Le retour de ces objets issus du pillage montre clairement les avantages de la coopération américano-malienne en matière de protection du patrimoine culturel du Mali. Parmi les objets figurent des grandes urnes funéraires, un vaisseau funéraire Dogon, une coupe cérémoniale unique, des haches, des pierres, des poteries et des bracelets. Un geste salué par le Premier ministre Chogel Kokalamaïka.
Je voudrais remercier le gouvernement et le peuple américain pour ce geste ô combien symbolique, avec toute sa charge d'émotion et de joie. S'il est inédit par son ampleur, le retour de 900 objets s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord existant entre nos deux pays.
Les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux sur les biens culturels avec 23 pays. Le Mali est le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir un tel accord. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, à l'occasion de la Journée mondiale contre la corruption, les commerçantes tiennent une campagne de sensibilisation dans 9 marchés de Kinshasa dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les vendeuses subissent des intimidations et parfois du chantage sexuel pour vendre leurs produits à bas prix. Nathalie Barge a joint Espérance à Kilembe, chargée de cette sensibilisation au marché de Delvaux à Kinshasa. Madame Kilembe produit et vend des jus de fruits locaux au sein de la coopérative de femmes Coletco.
Il y a vraiment d'intimidation, de corruption, même des harcèlements sexuels en tout cas. Par exemple, si vous vendez, vous voulez acheter par exemple ceux qui vendent la fruiterie, hein, on appelle ici Tombola. Vous voulez donner votre argent, exemple, on va à 50 000 francs. Ici, 50 000, attends, 50 000 francs, 120 dollars. Vous allez là-bas pour acheter. Vous trouvez les hommes qui sont là, qui vont vouloir acheter. Soit vous couchez avec eux pour qu'ils vous donnent la marchandise. Si tout ça, c'est rare, hein. Par exemple, les habits des enfants, c'est devenu très rare, recherché. Quand les femmes y vont pour acheter, les gens qui disent, avant que je te donne, tu sors avec moi. Donc, les intimidations comme ça. On va en Ebrez, par exemple, à 25 000 francs congolais. Les gens qui viennent, les hommes, qui disent, je vous achète à 35 000 francs. Donc, les femmes sont aussi obligées de sortir 35 000 francs, alors qu'ils avaient prévu 50 000 francs pour 2 sacs. Là, ils n'auront qu'un sac.
Alors, parlez-nous justement de cette sensibilisation sur les violences faites aux femmes.
Nous sensibilisons les femmes, nous leur disons qu'ils ne doivent pas se taire. Tout ce qu'ils rencontrent, ils doivent venir. Par exemple, chez nous, nous allons installer un bureau là, ici, à des eaux là. S'ils viennent avec leur plaidoirie, nous allons faire les mémos et donner à qui les droits, à notre gouvernement, pour qu'on puisse un peu régulariser ces choses-là. Par exemple, pour acheter quelque chose, il faut les intermédiaires. Vous voulez acheter directement, vous devez passer, payer ceci, payer cela. Pour faire sortir des femmes, par exemple, un sac dans les camions, on va vous dire, même si vous venez avec un porteur que vous-même vous avez amené, non, on va refuser celui-là, il faut que celui du camion puisse faire descendre pour vous, donc vous lui payez encore l'argent. Tout ça, ça pose problème. C'est pourquoi on s'utilise des femmes pour leur dire, ils sont comme des hommes, qu'ils ne puissent pas se sentir faibles. Dans l'entrepreneuriat, nous sommes tous égaux, donc nous avons des lois que nous devons suivre. Et puis nous demandons normalement qu'on puisse vulgariser toutes ces lois-là, c'est ce que nous devons faire dans l'avenir pour que ces femmes connaissent toutes ces lois-là et qu'on puisse les mettre en pratique, qu'ils puissent savoir faire, qu'ils puissent déclarer, qui puissent dénoncer surtout les harcèlements sexuels.
Espérance Kilembe est conseillère en sensibilisation au sein de la coopérative de femmes commerçantes Coletco à Kinshasa.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, quelle réponse régionale face aux groupes armés ? Fin novembre, quatre pays, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont lancé une opération conjointe contre les groupes djihadistes. L'armée ougandaise a même depuis quelques jours des opérations contre les ADF dans l'est de la RDC. Et il y a quelques mois, des soldats rwandais sont venus à la rescousse du Mozambique pour vaincre les djihadistes dans la province du Cabo Delgado. Quelle stratégie régionale face aux djihadistes ? La mutualisation des forces militaires peut-elle venir à bout de ces groupes armés ? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le président américain a donné le coup d'envoi aujourd'hui à un sommet virtuel de deux jours sur le thème de la démocratie. La Chine et la Russie ont fustigé leur exclusion. À l'ouverture, Joe Biden a reconnu que les États-Unis eux-mêmes devaient combattre sans relâche pour être à la hauteur de leurs idéaux démocratiques. Il a également convenu qu'aucun des États invités n'était parfait. Les enjeux de ce sommet avec Cindy Sain de la VOA, le récit est de Blanche Sanou.
La rencontre virtuelle sur la démocratie intervient dans un contexte de défis croissants et de nouvelles menaces selon le président américain Joe Biden. L'attaque du Congrès américain en janvier 2020 par des partisans de l'ex-président Donald Trump fait partie de ce qui a motivé le président américain, selon le sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Yusra Zeya.
We approach this week with both humility and confidence.
Nous abordons cette semaine avec humilité et confiance. Humilité en ce sens que nous voulons écouter et apprendre sans crainte de nos lacunes, confiance en notre effort constant pour une union plus parfaite et notre certitude qu'en travaillant ensemble, les démocraties peuvent et offriront mieux aux citoyens du monde, malgré les réticences ou l'illusion que les autocrates et les régimes autoritaires essaient de vendre.
L'attaque du 6 janvier a laissé ses marques sur la scène mondiale, selon Brian Katoulis du Middle East Institute.
J'entends davantage parler des pays amis, d'adversaires et de concurrents où beaucoup d'entre eux se dressent de plus en plus contre les États-Unis. Bien évidemment, tous les pays ne sont pas nécessairement impliqués, mais en partie, cela les influence car ils voient le monde changer. Ensuite, ils s'inquiètent au fur et à mesure des remontes politiques aux États-Unis, en particulier, comme vous savez, les changements d'atmosphère après les élections du président Obama au président Trump. C'est vrai que tout cela est en train d'être revu avec la nouvelle direction du président Biden.
La lutte entre les démocraties et les gouvernements autoritaires a été au centre de la politique étrangère de l'administration Biden avec des crises au Myanmar, en Haïti et au Soudan, entre autres. Les dirigeants des pays comme la Russie et la Chine ne sont pas invités. La Russie et la Chine ont critiqué cette rencontre elle-même comme étant antidémocratique et source de division. Lors d'une récente visite au Kenya, le secrétaire d'État Anthony Blinken a décrit ce qu'il a appelé une récession démocratique inquiétante.
Les démocraties reculent. Ce qui est mis à l'épreuve, c'est la démocratie sous toutes ses formes, de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous avons vu que les citoyens n'ont plus confiance en cette démocratie. Nous avons vu certains jouer ou profiter des divisions qui existent au sein des démocraties. Des institutions indépendantes sont contestées et influencées. Des journalistes militants des droits humains menacés et agressés.
Le président Joe Biden envisage le sommet comme le coup d'envoi d'une année d'action pour la promotion de la démocratie, la lutte contre la corruption, l'extrémisme et la protection des journalistes et des militants des droits humains détenus ou menacés dans le monde entier.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. A très bientôt. Au revoir. VOA.